on va parler maintenant de notre défenseur des enfants, qui lui fait aussi avancer un certain nombre de causes, qui étaient des causes qui sont extrêmement importantes, prégnantes, avec un enthousiasme, une compétence, une rigueur, une qualité d'engagement qui ne cesse de s'agrandir, je dirais, année après année, sur des sujets de plus en plus complexes. Je me demande ce que tu nous réserves pour l'année prochaine. Cette année, c'était la justice. L'année d'avant, c'était la question de toutes les questions liées à l'environnement. Je crains l'année prochaine.
Voilà. Il part l'année prochaine.
Ah ben, il aura peut-être le temps quand même de.
Profitez-en, il est formidable.
Voilà. Éric, à toi la parole et puis je te laisse vraiment le soin de conclure avec ce qui t'intéresse dans cette journée particulière.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à la ville d'Issy-les-Moulineaux. Merci de votre accueil. Merci au Clavim. Merci, cher Bruno, de votre engagement, des actions que vous faites en dehors de cette journée, hein, au quotidien, et les combats. Et même s'il y a des choses extraordinaires de fait, je sais aussi que rien n'est acquis et que c'est des combats de tous les jours. Alors, je suis le défenseur des enfants. Vous n'avez pas pu le louper, là. et donc, j'avais... Je revenais de Lille, j'étais revenu ce matin à Lille et j'avais bien entendu regardé les documents. J'avais prévu tous les cas d'aborder sans doute dans une forme de continuité à travers le rapport qu'on avait remis au président de la République l'année dernière sur les conséquences de la dégradation de notre environnement sur les enfants. Donc tout ce qui va être et tout ce qui a aussi conduit à, depuis quelques années, à aussi repositionner les villes à hauteur d'enfants avec ce concept de Janusz Korczak qui a déjà une centaine d'années. Puisque dans ce rapport, nous avions énormément parlé des enjeux climatiques, des enjeux d'éducation, c'est-à-dire comment, en réfléchissant au bâti, on pouvait aussi faire école autrement. Je sais que vous en avez, enfin, Benjamin en a très bien parlé tout à l'heure, on en avait d'ailleurs, on s'était vu en termes, quand j'avais mené un certain nombre d'auditions sur le sujet. J'aurais pu vous parler, bien entendu, d'écologie, de mobilité, etc. Et en fait, je me suis dit que ça avait été très bien fait, par la table ronde précédente et puis par toute la journée, par Adeline et d'autres. Et donc, moi, je vous proposais, au fond, un enjeu éminemment d'actualité, important, qui est, au fond, les enjeux démocratiques à partir de l'importance des communes. Peut-être que deux ou trois punchlines pour bien commencer les choses. Je crois que pouvoir dire, mais au fond, qu'est-ce qu'il y aurait de plus démocratique que d'écouter ceux qui n'ont pas le droit de vote? On parle énormément de progrès technologique, l'IA, le cyber, l'écologie, même si on a des problèmes de financement, on arrive à faire du bâti quand même extraordinaire. Mais en termes de démocratie, qu'est-ce qui serait plus démocratique que d'écouter la parole de ceux qui n'ont pas le droit de voter? Et puis la deuxième chose, j'avais envie aussi j'y reviendrai tout à l'heure, mais en vous écoutant tout à l'heure, ça me faisait penser j'ai un copain qui est formateur chez les pompiers et qui me dit, tu sais Eric, il y a 4500 morts sur les routes chaque année. Il faut absolument lutter. Hein, on est 68 millions d'habitants, il y a quand même quelques millions de voitures, il y a énormément de vélos, il y a énormément de piétons et on a 4500 morts sur les routes, mais on a 11 000 morts de maladies nosocomiales à l'hôpital et 20 000 morts d'accidents domestiques. Et il résume en disant, c'est pas le voyage qui est dangereux, c'est la sédentarité. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est assez important et je voulais aussi vous le mettre en début. Alors, je vais aborder trois registres qui est d'abord... les attaques contre la démocratie, et pourquoi? Parce que c'est toujours les enfants qui sont toujours les premières victimes des dysfonctionnements internationaux, mondiaux et des adultes, et aussi l'importance des communes dans cette comme sursaut démocratique, me semble-t-il. Vous l'avez vu, on est dans un monde totalement désinhibé en matière de loi du talion, de patriarcat, de masculinisme, où au fond, on remet en cause les états de droit de manière très simple. Réduction des libertés individuelles et absence de recours. Le jour où on enlève l'absence de recours, il n'y a plus de démocratie. Ce qui fait la démocratie, c'est aussi la possibilité du recours administratif, du recours judiciaire, du recours dans la vie quotidienne. Alors ça, je peux vous le dire parce que je suis le défenseur des enfants, mais je fais partie des 46 pays qui sont, dont les défenseurs sont membres, dont les pays sont membres du Conseil de l'Europe. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'être le président des défenseurs des enfants des 90 pays de la francophonie. Donc ça me permet aussi de voir comment, dans d'autres pays qui ont moins une culture, moins un état de droit comme le nôtre, qui sont plus fragiles pour des raisons d'instabilité politique, eh bien, comment les attaques envers le droit créent un certain nombre de choses, c'est-à-dire... Moi, je suis défenseur des enfants dans un pays totalement démocratique. Je ne suis pas menacé, mais j'ai des collègues qui sont menacés simplement parce qu'ils défendent les droits des plus vulnérables. Et ça, je vois des attaques comme ça. Je vois, au fond, une volonté de réduire, de diminuer tout ce qui est défense des droits humains, tout ce qui est... Conseil de l'Europe, par exemple, c'était complètement impossible, il y a quelques années, d'imaginer des gens du Conseil de l'Europe dire « mais il y a des pays qui sont en train de vouloir se retirer du Conseil de l'Europe ». Ça veut dire se retirer de la paix, ça veut dire se retirer de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ça que ça veut dire. Bien entendu, tout ça, ça a des vraies incidences. Parce que derrière l'attaque contre les États de droit, c'est aussi l'enjeu des solidarités dont chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, fait son rôle avec engagement et parfois difficulté. Cette base de la démocratie en France, elle est attaquée un peu à l'interne, mais beaucoup à l'extérieur, par des attaques... que ce soit les réseaux sociaux, parce que si les réseaux sociaux sont formidables pour plein de choses, c'est vraiment, je dirais, le bras armé des fake news et de la théorie du complot, etc. Et ce qui est remis en cause dans notre pays, c'est un certain nombre de choses que je vais résumer avec, au fond, ce que nous sommes tous ici, les produits du siècle des Lumières, c'est-à-dire que pour la première fois dans notre histoire, on va rompre avec une vision surdéterministe, déshumanisante de la société. Vous étiez fils de bandit, vous étiez étiqueté bandit. Vous étiez fils de pauvre, vous étiez pauvre. À travers trois choses fondamentales, c'est Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs. C'est indispensable, la séparation des pouvoirs. Ce que disait Diderot, la lutte contre tous les dogmes, religieux, politiques, tout. Et puis Rousseau, le contrat social. C'est-à-dire que le droit n'est là que pour le contrat social. Forcément, quand je vais dans une classe et que les enfants me disent « d'état de droit, monsieur, ça veut dire quoi ?» Donc je leur dis « écoutez les enfants, c'est assez simple. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus comme au temps des chevaliers ici ou des samouraïs au Japon, on n'a plus besoin de rentrer avec son épée dans les assemblées. C'est pas la loi du talion, c'est pas la loi du plus fort. C'est ça l'état de droit. C'est protéger tout le monde parce qu'à chaque fois qu'on protège les plus vulnérables, c'est la société qui va mieux. Ça, c'est la première digue sur laquelle, pas tant à l'intérieur, quoique parfois, on a des remises en cause, mais à l'extérieur, on a ces attaques-là. La deuxième digue qui est en train de céder, c'est le droit international, le droit des enfants, hein, 1924, la déclaration de Genève, l'humanité doit donner ce qu'elle a de meilleur aux enfants, et cette intime conviction que de tout faire pour protéger les enfants des violences des adultes envers les enfants, mais des enfants entre eux, est un enjeu pour nos démocraties, un enjeu de civilisation. Cette idée, au fond, un peu brutalement, je vais le dire comme ça, ou rapidement, que la société irait sans doute un peu mieux si on s'était mieux occupé de certains adultes quand ils avaient été enfants. Ça a donné le droit international. Ça a donné la Déclaration internationale, 1959. Armel l'a dit, 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant. L'article, pour moi, qui est fondamental, l'article 12, la prise en compte de la parole des enfants. Ça, c'est fondamental. Et ce n'est pas simplement la prise en compte. C'est que ces opinions doivent être dûment prises en compte. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est l'enfant qui décide, ça ne veut pas dire qu'on le surresponsabilise. Ça veut dire que l'enfant, et là ça a fait évoluer les notions d'autorité parentale, de la puissance paternelle au bon exercice de l'autorité parentale et à la guidance parentale. C'est ça, protection, émancipation. C'est ça qui fait que... C'est comme un tuteur que vous mettez sur un arbre, sur un pouce. Forcément, plus l'arbre grandit, plus le tuteur s'éloigne. Si vous le laissez pousser comme ça, à 15 ans, vous allez casser l'arbre pour le redresser. Je ne dis pas qu'il faut faire que des gens collés à la norme, ça fait des parano, mais il faut une souplesse. Mais c'est ça, cet enjeu d'éducation, cette guidance parentale. Et donc, pourquoi c'est éminemment important ce droit international, c'est que sur la prise en compte de la parole de l'enfant, c'est que ça a été dit, il y a énormément de freins à la parole des enfants. Le travail qu'on a, c'est jamais le temps qu'on a pour les enfants. Hein. Le travail, c'est le temps qu'on n'a pas. Ce que disent les enfants, c'est pas sérieux. C'est pas important, les opinions. Et puis ça prend du temps. Ça prend du temps et des moyens dans une époque où tout va très vite et où on n'a jamais le temps de prendre le temps pour nos enfants. On adore nos enfants, mesdames, messieurs. Pas de problème. Mais alors, si on pouvait avoir nos enfants sans leur enfance, qu'est-ce qu'on serait peinard? On voudrait qu'ils soient autonomes tout de suite, à 3 ans, 4 ans. On veut qu'ils soient responsables comme des adultes. On veut les envoyer en prison comme des adultes, dès 13 ans, dès 15 ans, dès 16 ans. Sauf que crise économique fait que pour les moins vulnérables, c'est-à-dire ceux qui s'en sortent un peu mieux, ils peuvent rester jusqu'à 25 ans, 30 ans à la maison. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais voilà. Donc, je ne sais pas comment les démographes vont analyser la situation des enfants, mais on est là-dedans. Donc, on ne cesse de réduire le temps de l'enfance. Ça, c'est fondamental. Alors que vous savez très bien que quand le bébé ne dort pas, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à rechercher la relation. Et comment on lui répond? Par le jeu. Par le jeu. On apprend tous parce que ça procure du plaisir. Le jeu, les apprentissages, les règles. On joue, on gagne, on perd. Bon, ça, c'est plus compliqué. Mais on apprend par le jeu. On apprend par la prise de risque. C'est exactement quand on développe sur des unités d'accueil petite enfance, les crèches, etc., de jouer dehors, de dormir dehors. On est plus résistant, on a moins mal. Alors c'est vrai, les enfants sont plus emmerdants parce qu'ils sont plus curieux, donc ils posent plus de questions. Mais c'est fondamental. Le dehors, encore une fois, c'est le dedans qui est menaçant, pas le dehors. Et ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, beaucoup de sociétés, d'ailleurs, disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est les troubles à l'ordre public. Ce qui se passe dans les familles, bah oui, mais ce qui se passe dans les familles, c'est dramatique quand il y a des maltraitances. Cette prise en compte de la parole, elle est fondamentale. Ça veut dire quoi? Vous savez aussi, vous savez, que si on devait attendre que le bébé sache parler, pour lui parler, il ne parlerait jamais. Si on ne parle pas au bébé, il n'apprendra jamais. Et quand l'enfant grandit, il faut lui donner le courage de prendre la parole. De s'assurer que s'il se trompe, il ne sera pas moqué, humilié par les camarades, voire par les adultes. C'est fondamental, ça. Donner le courage. C'est pour ça que j'adore aller dans les écoles maternelles, parce que les enfants sont installés en U. C'est très démocratique, en fait. Quand ils prennent la parole, ils la prennent devant tout le monde. Alors, bien sûr, certains enfants, dès 3 ans, vont simplement prendre la parole parce qu'on leur a dit de la prendre, ou parce qu'ils ont envie de la prendre. Ce n'est pas grave s'ils disent la même chose, avec des mots différents, que le précédent élève. Ce qui est important, c'est leur donner le courage. Pas attendre 14 ans, 15 ans, quand je vois le harcèlement, les cyberharcèlements, pourquoi tu n'as pas parlé avant, puisqu'en plus, maintenant, tu es sensibilisé dans les classes sur le programme phare. Et le jeune de dire, je suis sensibilisé en classe de 4e, ouais, plutôt bien. Mais pendant que je suis sensibilisé, je suis harcelé dans les toilettes, zone de non-droit où personne ne va. On pose des cloisonnements institutionnels effarants. C'est-à-dire, c'est très compliqué. Alors, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais ça me permet de faire le premier pont avec la démocratie et la commune, dans un contexte où je vous laisse apprécier ce que nos concitoyens peuvent penser des hautes sphères de la politique. De la nébuleuse, pourtant, il y a des départements, c'est fondamental, les départements, c'était l'action sociale de proximité, rapprocher le citoyen de la décision. Et pourtant, à chaque élection, qui va faire campagne sur la protection de l'enfance? On a même des campagnes sur les fonctions régaliennes de l'État pour être élu président de département. La région va avoir une dimension économique, mais ce qu'on identifie tout de suite, c'est la mairie. En Suède, encore une fois, l'herbe n'est pas plus verte, 10 millions d'habitants, 2 millions et demi d'enfants, un pays qui vieillit, mais le nôtre vieillit aussi. Le maire, alors bon courage, hein. Le maire, il est maire, il est directeur académique, et il est président de département sur la protection de l'enfance. Vous voyez comment, alors bien sûr, il a les moyens d'un État qui donne les moyens à ces communes de fonctionner. Donc on voit bien qu'on a, donc forcément tout le monde a le même patron, donc les cloisonnements des politiques publiques, un petit peu. Et puis, dans une dimension humaine qui est la commune, et dans les grandes villes, avec tout ce que vous connaissez sur les élus de quartier. C'est fondamental de rapprocher, ça a du sens, même si ce n'est pas simple, même si les maires, d'ailleurs, c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, on fait reprocher aussi à celui qu'on voit, tout ce qu'on reproche à ceux qu'on ne voit jamais, et vous connaissez les difficultés à l'aube des élections municipales pour un certain nombre de maires au quotidien. La troisième chose que je voulais vous dire, qui est la troisième digue sur laquelle il ne faut pas céder, mais qui est aussi menacée, c'est l'éducation populaire. La base du contrat social. S'intéresser aux transformations sociales. Si vous voulez que l'élève émerge, il faut protéger l'enfant. C'est évident. À peine, j'ai eu le plaisir de faire partie des experts, entre guillemets, qui ont inauguré la Convention citoyenne il y a quelques mois, et j'étais dimanche avec les citoyens pour le rapport de la Convention citoyenne, à peine il était sorti dans la presse, qui s'est fait démonter par les corporatismes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas parler d'enfant, on veut ne voir que l'élève. Comment vous voulez parler d'inclusion? Tout ce qui est différent, on ne veut pas. En plus, on n'en a pas les moyens, on n'est pas formé. On est dans des cloisonnements, politique publique énorme. On n'est pas foutu capable de mettre des éducateurs comme ça se fait dans certains pays depuis 30 ans. On les laisse dans leur... Et quand ils viennent pour des réunions, des pôles inclusifs, et pas pour être à soutenir les enseignants physiquement dans les classes ou dans les cours de récréation. On a totalement cloisonné notre école, mairie, département, région. Moi, j'ai des instructions, par exemple, où j'ai des violences entre jeunes à 11h45 de CM2. Donc ça prend une proportion de dingue, les parents s'en mêlent, en conflit avec l'institution, donc on est saisi. Et la réponse du directeur d'école, qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, sans doute, c'est-à-dire 11h45, voyez ça avec la mairie. Voilà, ça se passe tous les jours. Alors, on a 60 000 établissements scolaires, il y a des endroits où ça se passe mieux, mais voilà le cloisonnement des politiques publiques. Et ça, c'est pas qu'une histoire d'argent. Donc, ces enjeux-là d'éducation populaire sont fondamentaux. Le XXe siècle en France, et la seconde moitié du XXe siècle, alors que 1945, la France est trop peu riche d'enfants pour ne pas bien s'en occuper, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus riche d'enfants aujourd'hui. On a effectivement le drame de la Seconde Guerre mondiale, on a les enfants livrés à eux-mêmes, on a des orphelins, on a la crainte que la délinquance de survie se transforme en délinquance structurelle. Et donc, on va mettre la prévention spécialisée qui existait un peu avant, mais l'ordonnance de 45, les éduques de rue, on va mettre l'éducation populaire. Alors, bien sûr, l'éducation populaire, elle arrive d'une richesse incroyable. Elle arrive avec les pédagogies nouvelles, avec les pédagogies actives. Elles ont bien compris, elles, que l'émancipation des enfants vient aussi par les enfants. Ce qui est, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur les terrains d'aventure. J'ai aucune nostalgie. Moi, je fais partie des gens qui étaient ados dans les années 80. Donc, j'ai connu cette fermeture-là des terrains d'aventure. Le jour où on a fermé les terrains d'aventure, tous les cas où moi j'étais, on a eu une explosion des tags dans les murs, dans le centre-ville. Ils étaient souvent en périphérie, c'était une petite sous-préfecture. Alors, je ne dis pas que le street art existait depuis les années 70, je ne dis pas qu'il n'existait pas. Mais on voit bien aussi que c'est comme les enfants quand vous leur offrez le premier cadeau. Dites, ah, j'ai mis 100 balles dans ce cadeau, il est en train de jouer avec le carton. Mais ouais, les enfants, ils ont besoin de construire, déconstruire. Si on leur met un truc tout neuf, sauf qu'on ne supporte plus, ce qui n'est pas, vous l'avez très bien dit, risque zéro, on ne supporte plus que ce soit abîmé, on ne supporte plus que ça, et donc que l'espace public soit juste beau à regarder comme une carte postale. Les adolescents, et Armel l'a dit, ils trouveront toujours des moyens d'être sans vous, d'être sans nous. Les rêves partis, autant emmerdantes soient-ils pour un certain nombre de nos concitoyens, c'est la possibilité dans cet espace de tout contrôle où on est suivi sur nos smartphones, par l'intelligence artificielle demain, d'être hors de contrôle. C'est-à-dire s'opposer pour se poser. C'est ça, l'adolescence. Donc c'est fondamental d'avoir... Alors ça nécessite effectivement, vous l'avez très bien dit, une prise de risque à tous les niveaux. De l'animateur, de son patron, des élus, du maire, et d'avoir le courage, effectivement, parce que, comme vous savez, la prévention, quand ça marche, ça se voit pas trop. Forcément, c'est des politiques à long terme, et il faut un courage incroyable. C'est l'enjeu d'éducation, d'autant plus que les adultes sont hyper nostalgiques de leur propre enfance. Qu'est-ce qu'on a fait des conneries? C'est assez incroyable. D'ailleurs, quand on voit les enfants jouer, on est hyper heureux, quoi. Le temps de l'insouciance, le temps qu'on n'a plus, nous, ça, c'est fondamental. C'est éminemment important. Donc, je crois énormément... Alors, on voit des enfants jouer. On voit des enfants jouer dans des périphéries, dans des lotissements. On voit des, grâce aux mobilités, grâce au fait que les voitures roulent 4-30 à l'heure maintenant dans plein d'endroits, on a des enfants qui jouent dans la rue, ça se passe plutôt bien. On a aussi des inégalités territoriales très très fortes. On a sorti notre rapport la semaine dernière avec Cléridon, et on m'a invité à France Télévisions pour parler de mon rapport sur la justice pénale des mineurs. Vous imaginez juste après quoi? Après Marseille, après le narcotrafic, et après, voilà, en disant, lui, il va dire qu'il ne faut pas te punir. Bah oui, il va dire qu'il ne faut pas te punir, parce que punir sans réparer, sans soigner, sans prévenir, sans éduquer... construisez des prisons, mais avec des prisons où il n'y a plus les moyens de mettre de l'éducation, de la santé à l'intérieur, et comment sortent nos jeunes de ces structures-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner, mais il faut sanctionner sans avoir une vision globale des enfants, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je crois énormément à la commune, je crois énormément à cet espace de proximité malgré les difficultés. Bien sûr, il y a des inégalités territoriales très fortes, il y a des tailles de communes. Quand je discute avec le président des communes rurales, les 13 000, je crois, communes de moins de 3 000 habitants, c'est d'autres réalités, d'isolement, où le maire et ses adjoints sont de permanence, nuit et jour, et n'ont peu de moyens. Mais il y a des vrais enjeux, sauf qu'on est en train aussi d'éloigner les services publics d'un certain nombre d'endroits, de tout dématérialiser, de tout déshumaniser, sans recours possible. Et en plus, on a une jeunesse qui est totalement... Moi, j'y arrive à peine de me servir de mes deux doigts sur mon smartphone. Je fais des progrès, je fais des efforts, mais c'est encore compliqué. Eux, ils sont hyper balèzes là-dessus. Sauf que les démarches administratives, c'est une langue étrangère. Même vous, même moi, France Connect, qu'est-ce qu'on a envie de jeter la bécane par la fenêtre ? Ça marche jamais. On appelle, au bout d'un moment, imaginez les personnes, elles vont appeler un fonctionnaire. Le fonctionnaire, il n'y peut rien. Il y en a de moins en moins au bout du téléphone. Et la première chose que va faire le fonctionnaire, c'est dire « Pourquoi vous n'êtes pas allé dans votre espace numérique ?» Ben parce que j'ai appris à l'école que l'espace, c'est bourré de vide. Hein, mais, oui, non mais, c'est-à-dire que j'ai essayé, ça ne marche pas. Et il n'est pas rare que le fonctionnaire se rende compte que ça bug. Mais comme il est super sympa, il va aider à faire les démarches. Et il va s'apercevoir que ça bug. Et là, il va dire « Ouais, mais ça fait déjà 20 minutes que je suis avec vous, rappelez lundi. » Sauf que lundi, vous ne retombez pas sur la même personne. Donc vous abandonnez l'accès au droit. Ça crée un sentiment d'insécurité publique très très fort dans l'accès au droit. Alors bien sûr, il y a des maisons France Service, il y a un certain nombre de choses, mais il y a énormément de nos concitoyens qui abandonnent l'accès au droit, et donc beaucoup avec des enjeux de transport, on parlait du sport, de la culture, avec tout ce qu'on avait mis en place sur le pass culture, le pass sport est en train de se casser la figure pour des raisons budgétaires, et on est en train de créer des problèmes sans doute d'insécurité de demain aussi. Juste pour la petite information, on a 85 000 personnes incarcérées en France. Pour 62 000 places, c'est le record. On a 29 000 surveillants pénitentiaires, il en manque 6 000 au moment où je vous parle. 6 000 en arrêt maladie. Voilà. Vous passez le concours, aujourd'hui vous êtes pris à 6 sur 20. Parce que personne, les conditions de travail sont tellement exécrables. Donc on peut continuer comme ça à créer 90 000, 100 000, 110 000, 130 000 places de prison. Si on n'est pas dans une vraie politique d'insertion et de prévention, eh bien nous ne réfléchirons pas et on s'adressera qu'à notre cortex, notre partie du cerveau qui est pulsionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, les enjeux reliés démocratie et enfants, c'est éminemment un enjeu de société le plus important qui nous réunit, et je crois que vous êtes tous convaincus. Voilà. Alors, j'aime bien ce que disait Camus. Camus, il disait « La plus grande générosité envers l'avenir, c'est tout lui consacrer au présent. » On n'a qu'à faire ça avec nos enfants. Merci.
Merci pour vos trois interventions. Merci vraiment pour les encouragements et puis surtout l'engagement qu'il convient de conduire aujourd'hui, maintenant et demain.